Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM RDWA.fr. Aujourd'hui, le capitaine est allé interroger le conservateur du musée de Die, Jacques Plonchon, afin d'en savoir un petit peu plus sur ces mystérieux tableaux exposés à la cathédrale de Die.
Ce qu'on peut en dire, de toute façon, c'est une cathédrale Notre-Dame. C'est-à-dire que, comme toutes les églises, qu'elles soient cathédrales ou pas d'ailleurs, toutes les églises sont dédiées à un saint. Bon. Donc les églises, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a des églises Saint-Jean, Saint-Mathieu, et il y a des églises qui sont dédiées à la Vierge. Et c'est le cas de la cathédrale de Die, qui est Notre-Dame depuis au moins 1250 et probablement avant. Donc le programme iconographique d'une église, c'est-à-dire l'ensemble des sculptures, tableaux, vitraux, etc., généralement tient compte quand même de l'appellation de l'église elle-même. Donc une église dédiée à la Vierge, a priori, va avoir un programme iconographique, donc un certain nombre d'images ou d'œuvres d'art qui ont trait à la personnalité qui est vénérée. Pour la cathédrale, c'est la Vierge, et du coup, dans le cœur de la cathédrale, on a 5 tableaux qui présentent 5 étapes de la vie de la Vierge. Alors, ça a été fait début 18e, par un peintre, on va dire régional, puisque c'est quelqu'un qui est originaire de Gap, Louis Court, et qui peignait au début du 18e siècle. Alors après, pourquoi ces tableaux précisément à cet endroit-là? Là, il faut se souvenir que 1568, les protestants ont la main un petit peu lourde pendant les guerres de religion sur la cathédrale. Et du coup, ils démontent la voûte, ce qui veut dire que l'ensemble de la nef n'est plus protégé de la pluie. Hein. La toiture et la voûte sont effondrées. La cathédrale sert de carrière pendant quelques années. Et pendant un bon siècle, c'est-à-dire de 1568 jusqu'à 1650 à peu près. Pendant près d'un siècle, la messe va se dire sous le porche. Mais de toute façon, comme la majorité des gens sont devenus protestants à Die à cette époque-là, ça laisse peu de catholiques, donc sous le porche ça rentre. On va dire les choses comme ça. À partir de 1650, reprise de pouvoir par Louis XIV. Alors, vous avez été à l'école comme tout le monde, Louis XIV, l'absolutisme, machin, qui s'accompagne aussi d'une reprise du catholicisme d'État. Rien à voir avec la religion, hein, puisque c'est une religion d'État, donc c'est un moyen politique comme un autre, reprise en force de ça, et à partir de là, on va reconstruire la cathédrale de Die, en même temps qu'il y a des persécutions sur les protestants, parce que ça sert les intérêts de l'État, ou en tout cas, l'État estime que ça sert ses intérêts, même si après, il y a une grosse polémique depuis longtemps pour savoir si c'était une bonne idée ou une franche erreur, de faire partir les gens les plus cultivés à l'étranger. Enfin, la fuite des cerveaux, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça commence là.
Ah oui, c'est intéressant. Oui.
Voilà. Mais bon, ça, limite à Paris, ils ne pouvaient pas forcément le savoir, et puis c'était pas leur logiciel de toute façon. Donc bref, on reconstruit la cathédrale à partir de 1650. Donc maçonnerie, gros œuvres, voûte, charpente. On sait que la charpente est faite autour de 1659. Et puis les travaux prennent du temps, la cathédrale, si mes souvenirs sont bons de tête, est réinaugurée en 1679, je crois, ou 1690, enfin, dans ces eaux-là, grosso modo, fin 17e. Et puis, entre la fin du 17e et le 18e siècle, entre Louis XIV et Louis XV, il y aura encore des subventions d'État sont accordées à la cathédrale pour la remeubler et lui rendre une allure correcte, quoi, esthétiquement. Donc, construction de la chaire, la fameuse chaire de la cathédrale avec ses panneaux sculptés, construction de toutes les boiseries du chœur, puisque dans la reconstruction initiale, il n'y avait pas de décor de ce genre. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui se passe derrière. Et puis, au sein de ces boiseries du chœur, on intègre donc au début 18e ces fameux tableaux. Donc, ils sont des grands formats, qui ont bénéficié d'un programme de restauration dans les années 2000, Donc les 5 tableaux sont partis dans un atelier de restauration l'un après l'autre et sont revenus en meilleur état. Tous les petits problèmes que ces tableaux avaient pu avoir depuis le 18e ont été réparés. Et puis surtout, les vernis ont été revus, les couleurs ont été ravivées un petit peu, ce qui les rend nettement plus lisibles. Puisque sinon, les tableaux ont rapidement tendance à noircir. Et donc maintenant, on les voit en tout cas correctement. À défaut de correctement les comprendre, parce que les épisodes de la vie de la Vierge, je ne suis pas certain que ça fasse partie de la culture générale de la plupart des gens.
Ouais, c'était ma question suivante.
Alors là, j'ai un petit peu regardé, parce que c'est, j'avoue que moi, ce n'est pas trop mon logiciel non plus, puisque moi, mon truc, c'est plutôt le gallo-romain. En fait, les cinq étapes qui sont présentées, c'est... alors que je ne me trompe pas, il y a la présentation au temple, le mariage... évidemment l'Assomption, qu'est-ce que j'oublie, la Visitation bien sûr et l'Annonciation.
Ok.
Bon, Visitation, Annonciation, ça c'est pas un problème puisque c'est deux parties qui sont dans les évangiles, donc dans les livres de la Bible telle qu'elle est reconnue actuellement. Pour les trois autres épisodes, c'est un peu problématique parce qu'il s'agit d'épisodes qui sont racontés dans ce qu'on appelle des livres apocryphes. C'est-à-dire des livres écrits entre le 2e et le 5e siècle de notre ère, mais qui ne sont pas retenus dans la Bible au sens strict. On leur reconnaît une portée religieuse, sauf que pour des raisons diverses, sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, parce que je ne les maîtrise pas non plus, ça n'a pas été retenu dans le texte final, dans le texte tel qu'on le présente à l'heure actuelle. Donc, notamment, il y a le protévangile de Jacques et le pseudo-évangile de Jean. Voilà. Qui mettent en place, on va dire, des choses qui ne sont pas dans le dogme religieux, du coup qui s'apparentent plutôt à de la légende, même si l'Église catholique va revenir dessus et l'intégrer petit à petit dans le dogme. Donc là j'ai pris trois notes, hein. Ça tient à la virginité perpétuelle de la Vierge, c'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, il est reconnu par tous que le Christ est né sans intervention humaine, en tout cas sans intervention paternelle, pour dire les choses à mi-mot. Après, que Marie reste vierge après avoir eu le Christ, ça c'est à la limite un problème annexe. Là-dessus, il y a une petite guéguerre entre protestants et catholiques, puisque bon, les protestants ne reconnaissent pas cette virginité perpétuelle. Et pour ce qui est de l'Église catholique, la virginité est reconnue de façon nette par le Concile de Latran en 649. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça devient un dogme. De la même façon qu'ensuite on va agrandir le phénomène, c'est-à-dire que pour que Marie soit totalement exempte de toute relation au sexe, non seulement elle conçoit et enfante sans intervention sexuelle, mais en plus elle est elle-même conçue sans intervention sexuelle. C'est le thème de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que non seulement le Christ est né sans intervention paternelle, mais même Marie. Et donc ça, c'est un petit rajout qui se met en place en 1854, c'est pas si vieux.
Ouais, on n'imagine pas comme ça.
Ouais, ouais. Et c'est des choses qui traînent dans la tradition religieuse, mais qui ne sont rentrées officiellement dans le dogme religieux qu'à partir de certaines dates. Et puis, ensuite, on en arrive au thème de l'Assomption. C'est-à-dire que c'est le fait que Marie n'est pas morte physiquement et qu'elle a été enlevée et montée directement au ciel, mais avec armes et bagages. C'est-à-dire pas comme on est censé le faire dans la religion chrétienne. C'est-à-dire on meurt et ensuite l'âme rejoint le paradis. Elle est partie avec son corps. Hop, elle est enlevée. Ce thème-là, c'est pareil, hein, c'est issu du protévangile de Jacques. Donc c'est pas dans le dogme normal du texte religieux, mais par contre c'est accepté par le dogme religieux en 1950, c'est Pie XII qui va inscrire l'Assomption dans le dogme, alors que la tradition religieuse ou la légende religieuse traîne depuis au moins le 4e siècle. Donc c'est des évolutions assez marrantes. Et voilà, ces tableaux présentent ces cinq thèmes-là. Alors pourquoi ceux-là ? Ça c'est un choix à la fois des... je suppose que ça ne s'est pas fait sans l'assentiment du diocèse, de l'évêque et des prêtres de l'époque. donc début 18e. Et puis en même temps, c'est certainement aussi un certain nombre de choix de l'artiste.
D'accord. Et en fait, donc, ils ont été peints avant la reconnaissance officielle, entre guillemets, de...
Mais ça, c'est pas gênant, ça.
Ah ouais.
Ça, c'est vraiment pas gênant. C'est-à-dire que traditions religieuses, légendes religieuses, hagiographies, etc., c'est des petites histoires qu'on rajoute. Enfin, y en a une qui est connue, Sainte Véronique, le patron des photographes. Il y a le Christ qui porte sa croix, et puis Véronique arrive avec un mouchoir, il essuie le visage, et l'empreinte du visage de Jésus reste sur le mouchoir. Donc en gros, elle a un négatif photographique. Bon, c'est voilà, c'est quelque chose qui a été rajouté, qui... Alors après, les points de vue divergent, hein, ça apporte quelque chose ou ça apporte absolument rien aux problèmes religieux. Mais voilà, c'est des choses qui sont rajoutées parce que... Voilà. Après, on est dans la religion, c'est-à-dire que là encore, on est sur des croyances, on n'est pas sur un modèle scientifique ou rationnel. On ne peut pas prouver Dieu. Ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu. Et pour une Véronique qui n'est pas dans les livres de la Bible tels qu'ils sont reconnus, mais qui est certainement dans un texte ultérieur qui a plu et dont on s'est servi, ma foi, pourquoi pas. Après tout, c'est plutôt sympa de sa part. Elle voit un type qui est en train de porter sa croix, qui est en pleine chaleur, enfin, en Palestine, il ne fait pas froid, quoi. Elle lui essuie le visage avec un mouchoir, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on va pas. Alors après, on fait un dogme religieux, c'est un autre problème, mais ma foi, pourquoi pas. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une acceptation personnelle. Moi, c'est pas mon problème, en tout cas. J'ai pas à me prononcer là-dessus. Donc voilà, il y a ces cinq tableaux-là. Alors il faut savoir aussi que dans le programme iconographique de la cathédrale, on a quand même d'autres choses. Ce qui est assez sympa quand même, c'est-à-dire que au-dessus des tableaux de la Vierge, il y a un certain nombre de vitraux, et le vitrail central, qui est dans l'axe de la cathédrale, dans le cœur, représente justement le Christ portant sa croix, en sachant qu'à l'opposé, à l'entrée de la cathédrale, on a un Christ en croix. Donc ça fait l'axe majeur de la cathédrale, passe par deux représentations du Christ. Et par contre, à droite et à gauche, donc pour finir la croix, on a d'un côté Joseph, donc côté nord, qui est représenté à la fois par un autel qui lui est dédié, un tableau qui représente, je crois, la mort de Joseph, et au-dessus, un vitrail qui représente Joseph portant le Christ. Et puis, de l'autre côté, donc au sud, on a un autel dédié à Marie, avec une autre Assomption, si mes souvenirs sont bons, et au-dessus, un vitrail représentant Marie. Donc en gros, on a quand même les deux branches de la croix, l'une qui est entièrement dédiée au Christ, et l'autre qui est dédiée au reste de la Sainte Famille. Voilà. Donc ça fait un programme iconographique qui est cohérent, puis je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les statues ensuite qui bordent, ça c'est un petit peu plus complexe.
Ah oui ?
Autant... les axes majeurs du programme iconographique se comprennent facilement, et il y a certainement une volonté là-dessus. Après, il y a aussi des gens qui font des dons, de l'évergétisme, du mécénat, etc. Et tout ça fabrique quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un programme iconographique cohérent au départ. C'est-à-dire que voilà, j'ai un tableau religieux chez moi et je me dis qu'il serait vachement bien la cathédrale et que ça me ferait plaisir d'avoir mon tableau avec mon nom écrit dessus dans la nef. Je vais faire un don, on va le poser sur le mur, et ça n'a rien à voir avec le programme iconographique initial. Donc là, ça rend les choses beaucoup plus complexes quand il va falloir expliquer pourquoi il y a ça ici et ça là. Surtout que là, j'ai pris volontairement le cas de quelqu'un qui veut indiquer que c'est lui qui a fait un don. Mais il y en a plein qui donnent des trucs de façon anonyme, parce que leur but, c'est pas de briller, c'est de faire briller la cathédrale, on va dire. Et dans ce cas-là, pour retracer l'histoire du tableau ou de la statue, c'est maintenant plus compliqué. Donc, si je veux pas rentrer dans le détail, c'est parce qu'en plus, j'en ai pas forcément les moyens. On est loin de tout savoir, et ça fait partie du charme aussi. C'est-à-dire que c'est sympa de pouvoir tout expliquer, mais de temps en temps, laisser un petit peu planer un petit peu de mystère, c'est sympa aussi.
Merci pour avoir pris le temps ce matin donc, de répondre aux questions sur les tableaux de la cathédrale de Die.
Il n'y a vraiment pas de quoi.
Et j'espère à une prochaine fois.
D'accord.